7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, la prostitution étudiante en débat. Elles sont rats de bibliothèque le jour, sugar babies le soir, avec des hommes beaucoup plus âgés et généreux, que l'on appelle tantôt les sugar daddies en Europe, aux États-Unis ou encore des sponsors dans certains campus africains. Des mots pour masquer une réalité simple, du sexe tarifé. Alors pourquoi donc vendre ses charmes quand on est étudiante, promise à un métier, à un diplôme ? Le manque d'argent est-il le seul problème ? Nous allons en discuter avec l'auteur d'une enquête en France où le sujet est à la fois tabou et sous-estimé. Bonjour Nadia Lebrun.
Bonjour.
Vous recensez, ou plutôt les sites sur lesquels sont inscrites ces filles, on parle de 40 000 filles sur des sites de mise en relation. Pas toutes étudiantes, bien sûr, il faut le préciser.
Non, évidemment, elles ne sont pas toutes étudiantes.
Moi, on ne demande pas leur carte d'étudiant pour s'inscrire sur ces sites.
Non, mais moi, je tiens à préciser que j'ai enquêté vraiment sur les vraies étudiantes, celles qui font de grandes écoles, c'est-à-dire qui font l'ENA, qui font Sciences Po, qui font l'EDEC ou HEC, ou alors des grandes études supérieures. Voilà, c'était mon idée, parce que pourquoi ces jeunes filles qui sont autant brillantes doivent se prostituer aujourd'hui en France ?
Et donc, vous en avez rencontré quelques-unes. Elles sont jeunes, une vingtaine d'années, jolies, cultivées, inscrites en droit, au beau Beaux-Arts, vous le disiez, et en quelques clics se métamorphose. Vous publiez les nouvelles courtisanes. Alexis R, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-président de la FAGE, la Fédération des associations générales étudiantes, en fait syndicat étudiant. Votre syndicat a protesté tout récemment quand un site internet est venu sous les fenêtres de l'université faire de la pub pour son site de mise en relation, on va en parler, pour ses singulières activités périscolaires. Et chez vous, les voisins et les voisines, quelle est la réalité de la prostitution étudiante ? On a envie d'entendre évidemment vos témoignages, que vous soyez concernés de près ou de loin, comment fonctionne ce marché parallèle du sexe, que peuvent faire les autorités universitaires. Appelez-nous dès maintenant au 33 1 84 22 71 71 et bien sûr vos messages sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter. Allez, je vous lis les réactions des auditeurs sur notre fil Facebook. Énormément de réactions, vous vous en doutez. Franck est à Douala, nous dit que ce genre de pratique est devenu banal dans nos universités. Les jeunes étudiantes sortent avec des hommes plus âgés, mariés, les sponsors, qui leur donnent de l'argent en échange de rapports sexuels, de l'argent de poche ou de l'argent pour équiper leur chambre ou même s'acheter de jolies fringues, nous dit Franck, un brin amer. Ludivine, dans la même ville, précise que les hommes avec qui elles sortent, elles les appellent les Pinky Money. Charlotte à Lubumbashi, dans le sud de la République démocratique du Congo, nous dit que cette prostitution étudiante porte, elle, le nom de Chic Chek Choc. Beaucoup d'imagination hein, sur la sémantique, en l'occurrence. Moussa N'Djamena, au Tchad, beaucoup de filles se prostituent pour payer leur scolarité. Il faut que l'État et ses partenaires les protègent mieux. Il se trouve qu'en ce moment, en plus, grosse protestation étudiante au Tchad concernant l'augmentation des frais d'inscription. Sol Kassem est à Khartoum, au Soudan. Dans notre société, c'est un sujet totalement tabou. On ne peut pas débattre dans les médias alors que ça existe. On voit beaucoup de filles qui se prostituent pour payer leurs études. Mohamed est à Parakou, au Bénin. Lui, il pointe l'irresponsabilité de certains parents. On laisse partir les filles dans les campus qui sont souvent très loin de la résidence familiale, sans garantie financière. Et évidemment, les parents se disent qu'elles vont bien se débrouiller. Guy est lui aussi au Bénin. Il nous dit non, le phénomène n'existe pas au Bénin. Dans mon université, c'est vraiment rare. J'en entends même pas parler. Et puis, il y a Kizito à Lomé, tout près, qui explique que personne chez lui, évidemment, n'ose témoigner sur le sujet. Moins tabou, les relations tarifées entre prof et étudiante. Sexe contre bonne note. Il n'y a pas de cash. Hassan N'Djamena nous dit qu'on parle de crédit de fesses dans le système LMD. Ce marché fait croire aux hommes que les femmes ne sont pas à la hauteur des études. Marco à Libreville, moyenne sexuellement transmissible. Vous avez déjà entendu parler de ça, Alexis R.
Oui, on a déjà entendu parler malheureusement de ce genre de pratique de sexe tarifé contre des notes, contre des évaluations. C'est des choses qui existent et qui aujourd'hui sont très très tabous. Hein. Ça fait écho aux déclarations que vous venez de lire. On a encore aujourd'hui une omerta complète sur le sujet de la prostitution étudiante. On n'évoque pas le sujet, on le met de côté.
C'est
comme
clair.
S'il n'existait
mais
pas.
Mais là, on est là pour mettre et les choses sur la table, sur les campus scolaires de RDC, nous dit Jérémy aussi. Lui, il est à Kinshasa. Les points sexuellement transmissibles sont monnaie courante. Alors voilà, tout ça, ça s'appelle de la prostitution étudiante. Appelez-nous si vous êtes concerné par le sujet, de près ou de loin. Un seul numéro de téléphone. Évidemment, vos appels sont totalement anonymes. 33 1 84 22 71 71. Et évidemment, on aimerait aussi vous entendre, les voisines.
7 milliards de voisins.
On est plus semblables que différents.
Faut tenir compte des voisins.
7 milliards, pour moi, c'est totalement vertigineux. 7 milliards de voisins, de voisines, 7 milliards d'êtres humains, tous identiques, tous différents, appelés à vivre sur une toute petite planète, 7 milliards de frères et de sœurs.
Nous avons un auditeur qui nous appelle Youssouf. Bonjour Youssouf, d'où nous appelez-vous ?
Bonjour, bonjour Emmanuel Bastide.
D'où nous appelez-vous Youssouf ?
Je vous appelle depuis Douala.
Vous êtes concerné par le sujet ?
Allô ?
Vous êtes concerné par le sujet, Youssouf ?
Tout à fait, Emmanuel Bastid.
On vous écoute.
Ok, en fait, je suis jeune fille issue des familles pauvres ici, pratique la prostitution pour subvenir à leurs besoins, c'est-à-dire pour payer leurs petites chambres et gérer le quotidien.
Oui, mais en quoi vous êtes concerné ? Vous avez une amie qui est dans cette situation ?
Tout à fait, j'ai une camarade avec qui je fréquente, depuis le niveau 1 jusqu'à présent. Elle m'a raconté cela, son quotidien, comment elle a pu faire, elle a fait pour pouvoir payer ses études et gérer son quotidien, quoi.
À quelle fréquence elle fréquente un sugar daddy, c'est ça, un homme beaucoup plus âgé qu'elle et qui a de l'argent ?
Oui, c'est généralement des cadres d'entreprise et des hommes d'affaires dans la ville.
Qu'elle voit toutes les semaines ?
Oui. Je sais pas, ça doit être hebdomadaire quand même. Généralement, quand le gars a besoin, quand le monsieur a besoin d'elle, elle faisait le monsieur.
Est-ce que vous savez combien ça... Est-ce qu'elle vous a dit combien ça lui rapporte, Youssouf ?
Oui, mais ça lui permet de payer sa chambre et de gérer son quotidien. Donc, de payer des fringues, de gérer certains trucs, certains factures.
Est-ce que par ailleurs, elle a un petit ami sentimental ? Allô, Youssouf ?
Oui, mais tout à fait. Allô, oui, allô, tout à fait. On se dit, elle part avec ces messieurs-là juste pour gérer leur quotidien. Donc, elles ont quand même quelqu'un autour d'elles avec qui elles partagent de bons moments.
D'accord, donc elles ont aussi une histoire d'amour parallèlement.
Tout à fait, font ça en parallèle.
Merci Youssouf de nous avoir appelés. Évidemment, on aimerait bien avoir vos témoignages, les voisines. Nadia Lebrun, dites-nous comment vous avez rencontré ces étudiantes en France, peu particulières, et leurs clients.
Tout d'abord, elles sont rentrées dans ma vie personnelle, ces étudiantes. Donc c'est pour ça que j'ai eu tout de suite accès à elles. Et la première que j'ai rencontrée, c'était au cours d'une soirée où un homme que je connaissais, aisé, socialement bien établi, à Paris, connu, me présente sa sugar baby. Et là, du coup, c'est vrai que les bras m'en tombent un petit peu. Et je vois cette jeune fille un peu plus tard et je décide, je suis journaliste, de l'interroger sur ses pratiques. Et finalement, je me rends compte que elle n'a pas trop le choix, cette jeune fille. Au début, vous savez, vous commencez à discuter avec quelqu'un, vous vous dites, cette fille, elle se prostitue. Et puis, on a des jugements, voilà, on est dans l'incompréhension. Et finalement, j'ai eu beaucoup d'indulgence. Et pour toutes celles que j'ai rencontrées d'ailleurs, parce qu'elles se retrouvent sans revenus. C'est-à-dire que les parents sont aussi en crise. Les parents sont quadra ou quinca, donc ils sont au chômage. Et ces jeunes filles en France ne peuvent pas subvenir à leurs besoins. Et c'est ça tout le problème. C'est-à-dire que 20% des étudiants en France vivent sous le seuil de pauvreté. Et au fur et à mesure de ma discussion avec elle...
100 000 étudiants, hein, effectivement.
Au fur et à mesure de ma discussion avec elle, je me suis posé la question, est-ce qu'il y en a d'autres ? Il y en a combien dans ce cas ? Et donc du coup, elle m'a aidée, elle m'a présenté quelques amis et du fait, effectivement, je suis rentrée sur ces sites et du coup, j'en ai rencontré une quinzaine à peu près au cours de mon enquête.
Le phénomène touche plusieurs pays ?
Mais tous les pays, c'est un phénomène, si vous voulez, qui a pris son essor il y a 10 ans avec l'ampleur d'Internet. C'est-à-dire que ce sont des sites, des petits malins, qui ont profité de la précarité des étudiants, parce que vous savez, aux États-Unis, par exemple, ça a commencé aux États-Unis, les étudiants, pour suivre leurs études, doivent s'endetter et emprunter lourdement. Donc, du fait, ils ont commencé à créer des sites de rencontres entre jeunes filles et hommes plus âgés.
pile au moment de la croissance exponentielle des frais d'inscription, d'ailleurs, aux États-Unis.
Exactement.
Rien à voir avec les tarifs des universités en France où l'inscription à une licence se coûte dans les 180 euros et un master moins de 300 euros. Il faut quand même bien le préciser.
Il faut aussi préciser aussi qu'en France, aujourd'hui, quand vous voulez faire une grande école, n'oublions pas que c'est 30 000 euros à peu près le cursus. Donc ça veut dire que si vos parents n'ont pas les moyens aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire des études de grandes écoles en France.
On peut prendre des prêts. N'importe quelle banque ouvre ses portes à une fille qui est reçue dans école de commerce aujourd'hui en France.
Écoutez, ça c'est ce qu'on dit. Dans la réalité, moi de mon enquête en tout cas, ce n'est pas si évident que ça parce que vous devez aussi vous loger. Les grandes écoles sont à Paris. Savez-vous combien on va demander peut-être à monsieur R,
Alexis,
parce que moi je
ne
sais pas combien y a-t-il par an de chambres étudiantes disponibles à Paris pour les étudiants par rapport au nombre d'inscrits par an.
Vous allez donner de l'eau au moulin d'Alexis R. Non, sur le phénomène de la prostitution étudiante qui serait essentiellement dû au manque d'argent des étudiantes.
Non, c'est un fait qui est clair. Juste pour rectifier, vous parlez des étudiantes, mais il y a aussi des étudiants qui sont dans ces situations-là, des étudiants qui sont également sous des situations où ils doivent se prostituer pour pouvoir payer leurs études, parce que n'ayons pas peur d'employer
Alors,
les mots.
Vous parlez d'étudiants qui seraient donc sollicités par des hommes, ou beaucoup plus rarement, il faut quand même bien dire la vérité,
oui.
Par des femmes.
Non, par des hommes, par des femmes.
D'accord,
mais c'est vrai que
dans
le
des relations homosexuelles, d'accord.
Le phénomène reste aussi très centré sur les femmes à l'heure actuelle. Ça, c'est factuel. Le souci qui existe, et vous le pointez, vous avez totalement raison, c'est la précarité des étudiants à l'heure actuelle. C'est le souci principal qui déclenche ce genre de phénomène. On a vu une croissance exponentielle aux États-Unis, vous en fiez écho. C'est exactement le cas également en Grande-Bretagne, où aujourd'hui les frais d'inscription ont augmenté sur les dernières années, et où on sent que le phénomène prend de l'ampleur de plus importante.
Au Royaume-Uni, elles sont 600 000 jeunes filles à se prostituer. C'est énorme.
Au Royaume-Uni, on arrive dans des proportions qui sont phénoménales. Et en fait, la grosse difficulté à l'heure actuelle, c'est qu'un étudiant... au-delà de ces frais d'inscription, parce qu'il y a la question des écoles, mais dans les universités, vous l'avez rappelé, c'est des frais d'inscription qui sont aujourd'hui moindres. Il y a toute la vie à côté à financer, à payer, le logement, la santé, tous ces frais-là qui sont annexes. Et à l'heure actuelle, les dispositifs d'aide sociale, comme les bourses que peuvent toucher les étudiants, ne sont absolument pas suffisants.
Néanmoins, toutes les filles en galère financière et étudiantes, vous avez interrogé des filles, par exemple, en fac de droit, où là, les frais d'inscription ne sont pas exponentiels, ne sont pas prostituées avec un sugar daddy.
Fort heureusement,
mais tout le monde n'a pas des parents qui peuvent faire subvenir des études à la
SAS. Non, mais je parle de
SAS.
Toutes les filles en galère financière ne sont pas dans cette situation-là.
Heureusement.
Ne font pas ce choix-là.
Heureusement, mais ça existe.
Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'on est quand même à l'époque où les femmes cherchent par tous les moyens à s'affranchir, à faire entendre leur voix quand elles disent non, harcèlement sexuel, par exemple, l'affaire Weinstein, balance ton porc. Et vous, finalement, avec votre livre, Nadia Lebrun, vous nous rappelez qu'aujourd'hui, il y a des filles de 20 ans qui vivent comme il y a deux siècles, en courtisane, avec un homme de 30 ans de plus qu'elle, qui paye le loyer, qui paye les courses, qui les habille.
Qui subvient à tous leurs besoins.
En échange de leur compagnie.
En échange de leur compagnie, en échange de la monétisation du corps. Hein, on est bien clair, et de rendez-vous réguliers.
C'est quand même incroyable, non, à notre époque.
Oui, c'est quand même incroyable. Mais ce qui est incroyable aussi, c'est la relation qui se tisse entre la sugar baby et le sugar daddy. C'est-à-dire que vous avez une relation finalement de tendresse. Parce que cette relation, c'est un amour, c'est un pacte en CDD. C'est-à-dire le temps des études de la jeune fille. Parce que souvent, elles sont fidèles aussi à leur daddy. On n'est pas aussi dans ce phénomène de...
Il vaut mieux avoir de la stabilité, ceci dit.
Exactement. Mais il en résulte à la fin de leur relation, finalement, le sugar daddy reste finalement un parrain où elles vont le présenter comme un ami de la famille. C'est ça qui m'a aussi étonnée, c'est la relation qu'il y avait entre les deux.
Alors Alexis R, je voudrais que évidemment nous revenions à l'affaire d'octobre dernier. Pourquoi votre syndicat, la FAGE, est intervenu en octobre dernier? Un site internet, je ne sais pas s'il faut redire le nom parce que ça lui a fait une telle pub à six la capitale, notamment sous les fenêtres d'université, avec une affiche sur un camion. On pouvait lire « Hey les étudiantes, romantique, passion et pas de prêt étudiant, sortez avec un sugar daddy ou une sugar mama ». Voilà, si ça s'appelle pas de l'appel à la prostitution étudiante, je ne sais pas ce qu'il faut comprendre. Beaucoup de réactions outrées de la maire de Paris, Anne Hidalgo, de Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée à l'égalité femmes-hommes. Le camion a été saisi par la police, le président de l'université Paris Descartes a porté plainte. Vous, la FAGE, évidemment, vous vous êtes fait entendre sur ce dossier.
Mais bien évidemment, parce que ces cas de prostitution étudiante, nous, on en entend certains, on en reçoit certains dans nos cas de défense. On a des étudiantes, des étudiants qui viennent nous contacter en nous expliquant parfois, quand ils arrivent, enfin, à peut-être réussir à en parler, quelle est leur situation, quelle est leur vie, etc. Et puis voir aujourd'hui des entreprises qui profitent et qui jouent de la précarité étudiante pour vendre, pour vendre des sites internet qui sont, excusez-moi de l'expression, mais dégueulasses comme celui-ci, c'est inadmissible et c'est extrêmement choquant.
Comment
et c'est
vous, la vous avez, qu'on avait de, comment on vient vous raconter ce genre d'histoire, vous, les cas? Ça veut dire des étudiants qui veulent en sortir? Pourquoi ça arrive jusqu'à un syndicat étudiant?
Mais c'est certainement et très très certainement des étudiants qui veulent en sortir. Vous savez, nous, à la FAGE, on a une organisation qui est très implantée localement et qui, du coup, est au contact des étudiants directement par ses associations étudiantes. Et puis, du coup, il y a un lien qui se tisse assez fort entre les étudiants et puis leurs associations, essayer d'échanger, essayer de discuter un peu, et puis il y a cette relation amicale qui commence à arriver. Et au final, c'est un cadre qui permet aux étudiants de pouvoir s'exprimer, pouvoir vraiment se sentir peut-être un peu plus libre. C'est là aussi où on a un rôle, le rôle des pères, entre guillemets, de pouvoir écouter, de pouvoir avoir une proximité.
Et concrètement, vous avez les moyens de les aider?
Mais non, aujourd'hui, la difficulté, c'est ça, mais quels moyens on a pour les aider? Nous, on peut recenser les cas, on peut avoir cette oreille et cette écoute qui est déjà, je pense, un gros soutien pour ces étudiants. Et puis après, l'enjeu reste comme quand il y a des camions comme ça qui viennent faire de la prostitution.
Alors, le parquet de Paris a ouvert une enquête, entre autres pour proxénétisme aggravé.
Ce qui n'aboutira pas. Ce qui est ridicule.
Comme en 2014, où une plainte n'avait pas abouti
non
plus contre un autre
site. Mais
non, ça
n'aboutit pas, parce que je ne sais pas ce que vous allez faire, vous. Effectivement, ils peuvent être condamnables pour une question d'éthique, mais ils ne seront jamais condamnables pour proxénétisme. Et c'est bien là le problème.
Parce que quoi? Parce qu'il y a absence de caractérisation de l'infraction.
C'est parce qu'ils contournent tout simplement la loi, en revendiquant qu'ils ne sont qu'un site de relation entre jeunes filles et hommes plus âgés. Et c'est ça le problème. Et ils ne seront jamais, jamais condamnés pour proxénétisme. Alors moi, je dis plutôt... Parce que c'est qu'est-ce qu'ils ont fait qu'est-ce qu'a fait ce site? C'est faire un gros coup de pub, tout simplement. C'est-à-dire qu'il a mis quelques camions pour qu'on parle de lui, pour entrer dans le débat médiatique. Et ça marche. Et qu'on lui fasse un procès en plus, et que la mairie de Paris intervienne, lui... Il sait ce qu'il attend, c'est ce qu'il veut, c'est qu'on parle de lui, qu'on lui fasse sa communication.
Alors, si on n'a pas vu de pub sur un camion, comment ces filles franchissent le pas, Nadia Lebrun, celle que vous avez rencontrée?
Parce que vous savez, quand vous avez...
On n'étale pas le fait qu'on a un sugar daddy sur le campus, ça se raconte peu.
Parce que le camion, finalement, bon, comme je disais, il s'est fait un coup de pub, mais... On a l'air d'être étonné comme ça. Mais sur Internet, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des sites qui font des millions de dollars de chiffre d'affaires et qui profitent de la précarité des étudiants. C'est-à-dire que vous êtes étudiante, vous n'avez pas d'argent. Bah, vous vous mettez prostitution étudiante, sugar babies, et bien voilà, vous avez plein de sites qui vous proposent de rentrer. Donc elles s'abonnent.
Combien gagne-t-elle en moyenne, celle que vous avez rencontrée?
Ça dépend. Ça peut passer de 6 000 euros à 1 500 euros. Par mois. Oui. Si vous voulez, si on n'est pas dans l'argent, c'est-à-dire que souvent la personne loge le sugar daddy loge la jeune fille. Donc, comme les courtisanes, comme vous disiez, subvenir à ses besoins, ses courses, ses frais quotidiens. Mais finalement, oui, on peut dire que c'est un peu entre 1500 et 6000, ça dépend du sugar daddy, de ses moyens.
Avec des relations sexuelles,
mais elle choisit,
en moyenne, forcément, elle voit son daddy toutes les semaines.
Oui, comme les courtisanes, exactement.
Que savent les parents, la famille, les amis?
Non, les amis, les parents ne savent pas. Même les étudiants qui sont auprès d'eux ne savent pas. C'est-à-dire que la jeune fille qui va faire l'ENA que j'ai rencontrée ou qui va faire HEC,
elles ne sont pas toutes non plus dans ces grandes écoles.
Non, mais moi, je parle de mon enquête, vous voulez. Voilà. Et de toute façon, ça prouve bien. Non, mais ça ne veut pas dire qu'on peut pas dire oui, les prostituées, elles ne sont pas toutes dans les grandes écoles. Parce que ça existe. Parce qu'on a tendance à dire que la sugar baby, elle est à l'université, que c'est une pauvre fille, que non, elle est dans les grandes écoles et elle est cultivée.
Exactement, c'est ce que j'allais dire. Être inscrite à l'université n'est pas une...
On a toujours... inscrite à l'université, on sait très bien qu'on... L'université aujourd'hui, qu'est-ce que ça vaut?
Il y a le qui est en fac de droit qui dit, moi, c'est dans votre livre, hein, moi je ne suis pas une professionnelle du sexe, je suis des études de droit pour devenir avocate pénaliste, coucher n'est pas mon métier. Voilà. On va se retrouver juste après le flash, vous restez avec nous, Nadia Lebrun, Alexis R. On attend vos appels, les voisins et les voisines, 33 1 84 22 71 71, pour nous parler de cette prostitution, c'est vrai, occasionnelle, très singulière. On parle de la prostitution étudiante aujourd'hui. Et nous allons aussi bien sûr parler des sites internet. On se retrouve dans un peu plus de 3 minutes sur RFI maintenant, juste après le flash.
Ouais. 7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins sur RFI. On parle de la prostitution étudiante aujourd'hui qui touche presque tous les pays. En France, on parle de 40 000 filles inscrites sur des sites de mise en relation. Bien sûr, toutes ne sont pas de vraies étudiantes, cela va sans dire. Nadia Lebrun, vous avez enquêté votre livre « Les nouvelles courtisanes ». Vous avez rencontré de vraies étudiantes.
Oui.
Pour la plupart d'ailleurs brillantes,
oui.
Certaines à Sciences Po, en université de droit. Alexis R, vous êtes vice-président de la FAGE, Fédération des associations générales étudiantes. Vous nous le disiez en tant que syndicaliste que le sujet était totalement tabou. Les étudiantes, les étudiants aussi qui sont concernés ne parlent pas.
Bien
évidemment, la première démotivation, c'est l'argent, bien que l'inscription en université en France, on le redise, n'ait rien à voir avec les tarifs pratiqués par les pays anglo-saxons où là, du coup, il y a encore plus de filles qui se prostituent auprès d'hommes beaucoup plus âgés qu'elles et qui subviennent à leurs besoins au quotidien, qui payent le loyer, etc. Nous sommes en ligne avec Babacar Diagne, qui est à l'université Charanta Diop de Dakar. Bonjour Babacar Diagne.
Bonjour.
Monsieur Diagne, vous êtes le responsable de la cité universitaire et de la vie étudiante à Luca, d'un campus gigantesque de 80 000 étudiants. Sur les campus africains, moi j'ai souvent entendu parler de sponsor. Est-ce que vous aussi, vous connaissez ce terme ?
Je voulais saluer d'abord les auditeurs de votre émission 7 milliards de voisins que je suis régulièrement. Par rapport à votre question... oui, effectivement, j'ai entendu parler de ce terme au niveau de nos cités universitaires. Particulièrement, c'est un terme qui est utilisé par certaines étudiantes et certains étudiants. Et c'est quand une étudiante trouve quelqu'un, une grande personne, souvent, qui est plus âgée et qui a les moyens, et qui l'aide à satisfaire une bonne partie de ses besoins.
J'imagine évidemment que vous n'avez pas de chiffres, hein, puisque, bon, à part les recensements par les sites internet de mise en relation, le sujet est totalement impossible à quantifier. Est-ce qu'on en parle dans les autorités universitaires ?
Oui, on en parle. On en parle, mais... pas dans un sens de confirmer effectivement l'existence d'une prostitution étudiante, mais il arrive dans le cadre du travail, dans le cadre des relations étudiantes-professeurs, de tomber sur un problème qui implique des questions d'échange de faveurs qu'on pourrait... pour assimiler à de la prostitution.
C'est ça. Là, en fait, vous vous sentez concerné en tant qu'université quand il s'agit d'augmenter la moyenne, d'augmenter les notes aux examens en échange de faveurs sexuelles. Là, l'université est évidemment touchée de plein fouet pour des questions éthiques.
Oui, c'est des questions éthiques. Il est même apparu dans certains rapports du médiateur, parce qu'à l'Université Diop de Dakar, il y a à l'interne dans notre organisation une autorité qu'on appelle médiateur. Donc il est apparu dans ces rapports qu'il y a parfois des conflits qui sont liés à des questions qu'on pourrait assimiler à du chantage entre professeurs et étudiantes. Et c'est des questions qu'on règle à l'interne. Et la plupart du temps, c'est la question de la preuve qui pose problème, parce que souvent, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre.
Tantôt harcèlement sexuel, quand ça se passe à partir des hommes, tantôt prostitution, quand les filles proposent leur charme sexuel. Sur le campus, est-ce que les filles rencontrent des hommes plus âgés, ou bien ça se passe toujours à l'extérieur? Comment vous en tenez compte en tant que responsable de la cité universitaire?
Bon, nous avons deux types de campus, des campus qui sont mixtes où on peut trouver à la fois des pavillons d'étudiantes et des pavillons d'étudiants, et un campus qui est exclusivement réservé aux étudiantes, qui est la cité Claudel. Dans ce campus, les visites sont organisées. Les étudiantes peuvent recevoir des visites le jour à partir de 10h jusqu'à minuit. Et comme nous considérons nos étudiantes comme de grandes personnes, parce qu'elles arrivent à l'université majeure, c'est-à-dire après plus de 18 ans, ce n'est pas, les cités, nos cités universitaires ne sont pas des prisons, mais pour les jeunes filles, les pavillons sont mieux gardés que les pavillons des garçons. Même pour les pavillons des jeunes filles qui sont dans les cités mixtes, si vous y allez, vous allez vous rendre compte que la manière dont ces pavillons sont gardés ne sont pas les mêmes par rapport au pavillon des garçons.
Oui, mais enfin, évidemment, les smartphones et les sites internet ne tiennent pas compte de ces interdictions. Hein. Merci beaucoup, Babacar Diagne, d'avoir été en ligne avec nous en direct de l'Université Charenta Diop de Dakar, l'UQAD. Nadia Lebrun, on a parlé en première partie d'émission, évidemment, beaucoup des sites internet, puisque Alexis, vous nous l'avez dit, vous avez fait partie de ce concert de protestation contre un site internet à Paris il y a quelques semaines, qui circulait avec un camion publicitaire pour inciter les filles à se prostituer, les filles d'ailleurs, et les garçons. Hein. Il y a tout un vocabulaire aujourd'hui, puisque d'ailleurs moi-même je l'ai repris ce vocabulaire, sugar daddy, sugar babies, tout ça, ça sonne très, très joliment, très élégant.
C'est acidulé, non? C'est acidulé, on trouve des jolis mots pour cacher, pour ne pas dire prostitution.
Donc inventé par le marketing des sites internet.
Mais, et c'est ça la force, c'est pour ça que ça fonctionne. Ils ont un marketing où ils font croire aux étudiantes qu'elles ont, qu'il n'y a rien de mal à faire, à se prostituer. Quoi de mal quand on est étudiante, qu'on est dans le besoin de faire appel à un homme altruiste ou philanthrope pour l'aider durant ses études. Alors si vous voulez, ça banalise et en fait ça dédramatise la situation. Et même pour les hommes d'ailleurs, souvent ceux que j'ai rencontrés, parce que j'en ai aussi rencontré une dizaine, jamais n'avaient fait appel à une prostituée auparavant. Si vous voulez, ça les déculpabilise totalement d'avoir cette image d'altruiste et de un peu de mécène, hein, on va dire ça aussi.
Ils refusent de dire qu'ils sont des clients quand vous prononcez ce mot avec eux, puisque vous en avez rencontré plusieurs.
Bien sûr, ils refusent de dire qu'ils ne sont pas clients. Et pour les jeunes filles d'ailleurs, elles ne sont pas prostituées. C'est ça la différence. Elles ne disent même pas qu'elles sont sugar babies, si vous voulez. C'est-à-dire qu'elles font ça le temps de leurs études, parce que pour elles sont tellement déterminées que peu importe de monnayer son corps, dans la mesure où plus tard je vais accéder à ce que je veux, avoir un métier et me sortir de là. Et psychologiquement, c'est étonnant, parce que c'est comme si elles vont faire une résilience, elles vont passer
une
à
parenthèse.
Autre chose, une parenthèse dans leur vie.
Alexis R.
Mais je suis totalement d'accord avec ce que vous venez de dire, c'est ça la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on a eu au final un marketing qui s'est construit sur la précarité des étudiantes, et à l'heure actuelle, au final, on a réussi à banaliser dans les langages collectifs, individuels, le fait pour une étudiante de se prostituer, et le fait pour le sugar daddy, d'être client d'une prostitution, et à l'heure actuelle, ni eux, mais je pense pas qu'ils...
C'est un jeu de dupes.
Je pense pas vraiment, finalement, que ni l'un ni l'autre essaye de cacher la situation de prostitution ou de clientélisme. Je pense qu'en fait, ils ne se rendent même pas compte au final que c'est comme toute autre forme de prostitution, c'est de la prostitution, elle est caractérisée et elle est...
Mais c'est quand même étonnant pour les clients que vous avez rencontrés, qui sont des hommes extrêmement... en tout cas, vous les décrivez. D'ailleurs, votre livre n'a rien de sordide, c'est ce qu'on peut vous reprocher d'ailleurs. Votre enquête, finalement, elle est plaisante. Personne n'a l'air de vivre un drame total.
Parce que je suis dans l'univers de ce qu'on disait, de la communication, comment ça se vit. Moi, je ne suis pas mère la pudeur ou donneuse de leçons. Je suis journaliste. Je relate les vrais faits. C'est comme ça que la situation, la prostitution étudiante est vécue par les hommes et les femmes.
À aucun moment, ces filles ne vous parleraient du dégoût, du fait qu'elles n'ont pas envie d'aller voir leur daddy cette semaine, qu'elles sont fatiguées.
Mais elles sont malignes. C'est-à-dire, les hommes, je vais vous dire, ils sont crédules. Et les jeunes filles sont malignes. Faut pas dire qu'elles le vivent mal. Vous avez vu, vous avez lu par où elles sont passées. Vous connaissez leur parcours si vous avez lu le livre.
C'est-à-dire étrangler quand il faut payer des frais d'inscription, quand on n'a pas payé son loyer depuis deux mois, qu'on a des traites.
Au-delà de ça, c'est 90% des jeunes filles que j'ai rencontrées, je n'ai pas rencontré que celles-ci, ont tout en commun d'avoir un passé violent, ponctué de violences physiques ou psychologiques. Donc autrement dit, ça veut dire que ces jeunes filles ont toutes été harcelées par un homme de la famille, par un père, par un homme plus âgé. Et comprenez, je ne suis pas psy non plus, mais comme quoi l'homme plus âgé doit payer plus tard. Vous voyez un peu les choses aussi. C'est ça le drame, c'est que la plupart de ces jeunes filles ont été violées, ont subi un harcèlement sexuel.
Et pour ces hommes, c'est tout de même étonnant. Ils sont éduqués, ils ont grandi à une époque de libération sexuelle où chacun se choisit par attirance et ils se retrouvent avec du sexe tarifé.
Et oui.
Ça peut sembler tout de même étonnant dans leur milieu.
Voilà. Parce que c'est pas les moindres. Vous avez vu qui j'ai interviewé à peu près.
Vous n'avez pas donné les noms, mais les adresses, on voit un peu.
Socialement, on voit qui c'est. Mais c'est ça qui est incroyable.
Ils ont beaucoup d'argent et ils laissent beaucoup d'argent à ces filles. Hein.
Oui, c'est parce que c'est pour se donner. C'est un demi-essai, c'est pour se donner bonne conscience, tout simplement.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71.
Milliards de voisins pour se parler.
7 milliards de voisins. Et aujourd'hui, on dit quoi?
On dit quoi? On donne la parole à Bernie qui nous appelle d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Bonjour Bernie.
Bonjour Emmanuel.
Bernie, vous avez 28 ans, vous venez de terminer votre Master 2. Déjà bravo.
Exact, merci.
Bernie, vous avez été confronté à ce problème au cours de vos études, semble-t-il?
Nous étions en 2013, c'était un peu compliqué, alors que j'étais en train de passer ma licence 2. Mmh. Donc avec la famille, c'était un peu compliqué, je ne savais pas quoi faire, j'ai vu quelques amis, ça ne marchait pas, alors que j'avais besoin juste de 250 000 pour valider mon année, parce que mes coûts étaient payants, puisque c'était une université privée. Mmh. Donc, il y avait une dame de l'administration qui nous donnait beaucoup de conseils, tout ça. Je suis allé la voir s'il y avait une possibilité qu'elle me prête les 250 000.
Francs CFA.
Voilà, 250 000 francs CFA. Donc, elle m'a appelé après à son bureau et puis elle m'a dit, écoute, 250 000, c'est pas forcément un problème. Il fallait m'en parler depuis tout ça. Donc, elle m'a fait une proposition qui n'avait rien à voir avec ce que je lui avais demandé.
C'est-à-dire, elle ne vous a pas proposé des taux d'intérêt, par exemple?
Non, parce que moi, je suis allé la voir dans le but de rembourser, puisque après les vacances, je travaillais un peu dans d'autres domaines qui pouvaient me permettre d'avoir de l'argent pour rembourser.
Oui.
Et c'est là qu'elle me fait croire que depuis près de 3 à 4 mois, voilà, elle portait un regard un peu favorable sur moi. Donc, du coup, elle aimait beaucoup mon affaire, que c'était même pas un problème que je vienne lui demander 250 000 francs. Elle peut me le donner facilement. Mm-hmm. Mais elle aime mon affaire, elle voudrait qu'on entretienne des relations. Voilà, genre, elle veut qu'on soit des amis. Il faut parler en Côte d'Ivoire, elle veut qu'on sorte ensemble, en fait. Et sortir ensemble en Côte d'Ivoire, c'est d'entretenir des rapports, des relations.
D'argent.
On peut sortir ensemble. Voilà.
Mais
on peut coucher ensemble. En fait.
Alors, vous avez couché avec elle combien de fois pour rembourser les 250 000 francs CFA, Bernie?
Bon, pour la toute première fois, je croyais qu'en le faisant une fois, ça valait le coup, en fait. Donc, on l'a fait une fois, et puis après, elle m'a rappelé, on l'a refait. C'est vrai que ça ne me plaisait pas, mais pour moi, c'était comme un poids qui était sur le cœur, parce qu'elle m'avait juste aidé, elle m'a permis de payer mes études. Donc c'était pour moi un sujet de reconnaissance que d'accepter un peu chaque fois qu'elle m'en demandait.
Cette femme avait combien d'années de plus que vous, Bernie?
Waouh! J'avais, je crois, 22 ans, et elle était dans 35, 37, par là, je crois bien 37 ans, voilà.
Ah oui?
Elle avait 37 ans.
Pas non plus à la veille de la mort, hein? Non, parce que vous avez fait waouh, alors on se disait, bon. Néanmoins, vous n'aviez pas de désir pour elle, pas d'attirance, si j'ai bien compris.
Non, pas. Je n'avais pas de désir. Au contraire, j'avais peur parce que c'était une relation que je cachais. Je ne voulais pas que quelqu'un le sache. Elle également, elle savait casser la chose. Et à chaque fois qu'elle m'appelait, j'avais tellement peur parce que je ne voulais pas que les professeurs le sachent, les amis de classe le sachent. Mais je devais aussi être reconnaissant parce que c'était compliqué. C'était compliqué.
Pourquoi vous aviez peur? On aurait pu penser que c'était une relation choisie.
Non, puisqu'elle était déjà habituée un peu à donner des conseils d'orientation, les filières auxquelles il fallait choisir tous les étudiants.
Vous pensez que vous n'étiez pas le premier, peut-être?
Ça, je me suis jamais posé la question, parce que c'est vrai, c'est la première fois que j'en parle. Mais à l'écouter, j'étais comme le premier. Elle n'avait jamais eu ce genre de relation, parce que c'est ce qu'elle n'a cessé de me dire. Voilà. Donc,
est-ce que vous avez eu le sentiment, Bernie, dans cette histoire, d'avoir eu recours à la prostitution pour payer l'argent, pour avoir l'argent qui vous manquait pour terminer votre licence?
En 2013, je ne sais pas, je ne savais pas si on pouvait appeler ça prostitution en tant que telle. Mais c'est un peu plus tard que je me suis rendu compte que c'était une forme de prostitution, parce que pour moi, la prostitution en Côte d'Ivoire, c'était un peu l'image des filles qui s'arrêtaient dans l'université, dans le coup de rue. Je ne savais pas qu'il y avait une autre forme de prostitution comme ça. Donc quand je l'ai su, parce qu'après j'en ai parlé à une de mes amies qui était dans une autre ville, elle m'a dit, ben tiens, que c'était pas très logique, c'était une forme de prostitution, que c'était pas bien que je le fasse. Et je lui ai dit, voilà, et là, c'est rien d'autre n'a pu être fait, il fallait que je le fasse. Mais j'ai décidé d'en parler aujourd'hui parce que je me suis dit, souvent on peut être forcé à faire certaines choses, pas parce que nous voulons les faire, mais parce que la situation souvent nous oblige. Je suis un exemple oculaire, j'en ai passé l'expérience. J'étais obligé de le faire. Et c'est à cela que j'aimerais qu'on porte un peu un petit regard, un pincement au cœur à ces jeunes filles qui se promènent dans les coins des rues, les soirs, les nuits. C'est vrai.
Merci Bernie de nous avoir appelé.
Voilà.
Merci Bernie surtout. Et puis merci à vous d'avoir eu ce courage-là. C'est encore moins simple, je pense, quand on est un homme. Évidemment, je voudrais bien préciser qu'on n'est pas dupes. Hein. On sait bien que la majorité des personnes concernées, c'est d'abord des filles. Et que c'est une minorité de garçons sollicités par des femmes. Mais néanmoins, merci beaucoup de nous avoir appelé, parce que je crois que le phénomène, il est le même dans la tête, intellectuellement. Ce qui se passe, c'est exactement la même chose. Nadia Lebrun, vous souhaitez réagir?
Oui, parce que j'écoutais ce monsieur et je me disais, effectivement, dans mon enquête, moi, j'ai voulu aussi que ces jeunes femmes parlent sans tabou de la sexualité, parce que la sexualité, elle est au cœur des tarifs, des relations tarifées, finalement. Et ce que j'ai... donc, ce qu'il disait, qu'il y allait, c'était un peu compliqué parfois, mais il n'avait pas le choix et qu'il avait une reconnaissance vis-à-vis de cette femme. Pour les jeunes filles, c'est pareil. Mais je me suis rendu compte aussi que pour la plupart d'entre elles, n'avaient pas de relation avec des hommes de leur âge.
Elles s'interdisent une vie sentimentale, en fait, parallèlement.
C'est parce qu'elles sont déçues par la sexualité des garçons de leur âge. Ça, c'était étonnant. C'est une nouveauté, parce que trop influencées par la pornographie, le web. C'est-à-dire qu'elles apprennent avec ces hommes, étonnamment, parce que moi j'étais la première à m'étonner de ça, l'amour à la papa, vous voyez, les caresses, les préliminaires, qu'elles ne connaissaient pas avec, dans une sexualité de jeunes de 20 ans.
Ouais. Alexia vous écoute avec attention, oui, représente un syndicat étudiant, mais c'est vrai que c'est étonnant de se dire que ce sont des filles qui s'interdisent de construire une vie sentimentale parallèlement, preuve que tout de même ça a donc une incidence énorme sur leur vie, leur personnalité et leur psychisme.
Il y a une incidence qui est phénoménale, et ça fait écho à ce que disait Bernie, votre auditeur. Ce témoignage était vachement intéressant, parce qu'au final il retémoigne à la fois de ce qu'on disait juste avant sur les moyens financiers, sur la difficulté à financer ses études, à l'impression d'avoir être pris entre deux feux, de pas savoir vraiment comment s'en dépêtrer, l'omerta sur le sujet de pas pouvoir en parler, et au final ça témoigne d'une situation qui est globalement complexe, et cet étudiant-là n'avait pas l'impression, il disait lui-même, de recourir à de la prostitution, alors que ça en était.
Alors si Bernie a téléphoné, les voisines, je pense que vous pouvez téléphoner aussi hein, pour témoigner. Vous avez compris, les témoignages sont anonymes, il nous reste quelques minutes. N'attendez plus, 33 1 84 22 71 71. On parle de la prostitution étudiante aujourd'hui, où que vous soyez dans le monde. 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins.
On existe ensemble.
Vous avez beaucoup travaillé avec les clients de ces prostituées étudiantes, oui. Nadia Lebrun. Alors ils le disent, donc ça vous l'avez expliqué. Non, ce ne sont pas des prostituées. Je ne suis pas un client. Il y a autre chose qui est intéressant, c'est quand ces hommes d'âge mûr, largement plus de 55 ans, plutôt 60, les femmes,
oui, beaucoup plus de 60.
Voilà, riches. C'est quand ils parlent des femmes, je dirais, les trentenaires, les quadras, des femmes comme vous, par exemple, Nadia Lebrun. Voici ce qu'ils disent dans votre livre. Les femmes sont devenues brutales, elles nous singent. Alors se retrouver en la compagnie de charmantes jeunes filles reposantes, que vous voyez quand vous voulez, qui vous attendent parfumées, oui, c'est très agréable. Ça s'appelle une leçon d'antiféminisme. Hein.
Alors, c'est-à-dire que, et puis après, bon, d'autres hommes témoignent à ce sujet, mais ils me disent tous en fait que la femme de 40 ans, et c'est vrai, enfin, ont été élevées par des femmes nées en 68, qui sont battues. Voilà. Et cette génération-là, ces filles qui peuvent être nos filles à toutes les deux, finalement, ne sont pas élevées par des 68ardes. Ça change l'éducation. Ces filles sont plus finalement dans la féminité que nous, dans notre génération, dans le féminisme. Et je pense qu'on est en train de basculer.
Pleine époque de balance ton porc, quand même. Hein. C'est assez paradoxal.
Mais celles qui balancent leur porc, elles ont quel âge? Marcella Yacoub, qui a été la première en 2013. Hein,
ils sont nettement plus âgés, d'accord, mais
voilà.
Pas que.
En tout cas, dans cette jeunesse, voilà, si vous en trouvez, il n'y en a pas beaucoup qui, à 20 ans, balancent leur porc.
D'accord ou pas d'accord, Alexis?
Pas forcément d'accord. D'accord parce qu'on a à l'heure actuelle une prise de conscience de la part des jeunes de ces faits que sont le harcèlement, de ces faits que sont que vous décriviez, le hashtag balance ton porc qui est sorti, etc.
Vous avez beaucoup d'étudiants qui balancent.
Mais des étudiantes, bien sûr, des étudiantes sur les réseaux sociaux, des réactions. Pas forcément des personnes qui ont été directement victimes, mais des personnes qui sont sensibilisées à ces questions-là, qui réagissent. Mais vous savez, il n'y a pas besoin d'être victime de harcèlement sexuel, pas besoin d'être directement concerné par la prostitution étudiante pour pouvoir en faire un sujet, pour pouvoir être sensible à ces questions-là et pour pouvoir essayer d'apporter au final ce qu'on peut faire.
Reconnaissez qu'il n'y a pas beaucoup d'étudiantes qui sont battues face au phénomène des sugar babies. On ne voit pas beaucoup de solidarité étudiante ou de syndicats d'ailleurs de femmes étudiantes qui se battent sur ce. Je suis désolée.
Mais je ne suis pas d'accord avec vous. Écoutez, je ne suis pas d'accord avec vous.
Donnez-moi des exemples. Il faut dire aussi qu'elles font tout pour ne pas faire pleurer dans les chaumières, ces jeunes filles-là. Elles arborent des sacs de luxe. Elles n'ont pas envie qu'on s'apitoie sur leur sort.
Les chiffres sont clairs. Elles sont plus de 40 000. Le syndicat Sud l'avait déjà expliqué.
C'est extrêmement controversé en 2013.
L'opinion publique sur la prostitution depuis 7 ans. Voilà, donc il ne faut pas fermer les yeux non plus. Voilà, moi je m'interroge, il y a 40 000 jeunes filles qui sont inscrites sur ce genre de site France. Voilà, et effectivement, le féminisme des jeunes filles, je ne le retrouve pas. C'est un fait.
Et en 2014, il y a une plainte qui a été classée sans suite de l'ONG Équipe d'Action contre le Proxénétisme, également pour un site internet qu'on ne citera pas, pour absence de caractérisation de l'infraction et donc incité à la prostitution.
Même en 2016, après la loi, vous savez, où on condamne les clients. Voilà, une autre association, plusieurs associations ont porté plainte et c'était en vain. Les sites n'ont pas été condamnés.
Non mais écoutez, il y a un sujet sur la condamnation des sites, il y a un sujet sur les dépôts de plainte et je suis d'accord avec vous. Et oui, les dépôts de plainte et les sites savent très bien comment réussir à faire en sorte de s'en sortir. Maintenant, qu'est-ce que ça apporte des dépôts de plainte? Qu'est-ce que ça apporte des actions judiciaires contre ces sites-là? Ça apporte de la visibilité. Alors peut-être de la visibilité aux sites, et ça c'est délétère, mais dans tous les cas, ils en auront. Mais surtout de la visibilité au sujet, de la visibilité au fait qu'aujourd'hui la prostitution étudiante existe. Vous rappelez une enquête de 2011 qui est extrêmement controversée par ailleurs. 2011, le rapport de Guy Geoffroy à l'Assemblée nationale, qui dit la prostitution étudiante est un fait. On ne peut pas la quantifier à l'heure actuelle.
Qu'est-ce qu'on a fait
depuis? On ne sait pas. Mais qu'est-ce qu'on a fait depuis?
Et vous, qu'est-ce que vous demandez en tant que syndicat?
Qu'est-ce qu'on a fait depuis?
Pour les étudiants aujourd'hui, pour la précarité des étudiants.
Mais madame, je m'engage chaque jour comme des milliers de jeunes pour essayer de faire en sorte de lutter contre la précarité étudiante. Bien sûr que ça marche.
Vous demandez une allocation universelle, par exemple, pour tous les étudiants comme
on demande un système de bourse.
Les bourses, vous savez très bien que les bourses ont été, encore une fois, comme tous les ans, sont payées avec du retard. Ce n'est pas.
Eh ben écoutez, le gouvernement a annoncé un paiement adaptif, vous voyez, au final on arrive à avancer et à gagner des batailles.
Quand on est dans une école privée, de toute façon, ça ne changera pas grand-chose.
Depuis 3 ans, les étudiants qui sont à l'université, ils ont des retards de paiement tous les deux. Est-ce qu'on peut
pas
se battre?
Depuis 3 ans qu'il y a des retards de paiement, des retards de paiement existent depuis bien longtemps, mais vous savez, les étudiants aujourd'hui ont des bourses qui sont supplémentaires. Les étudiants aujourd'hui ont gagné des batailles sur des aides sociales. Mais madame, vous me dites à l'heure actuelle qu'on ne peut rien faire et qu'on ne peut pas avancer. Vous êtes résigné
de
sur la question, vous êtes résigné sur la question de la prostitution étudiante en disant que les dépôts de plainte que l'on peut porter.
Si j'étais résigné, je n'aurais pas fait une enquête, monsieur, et je n'aurais pas passé 8 mois de ma vie à enquêter sur le phénomène et interpeller l'opinion là-dessus.
Mais vous avez totalement raison de l'avoir fait,
madame. Je ne suis pas résignée, bien au contraire. Je suis une battante.
Néanmoins, Nadia Lebrun, néanmoins,
c'est ceux qui essayent de s'engager sur ce sujet.
C'est vrai que vous n'éludez jamais la réalité crue. Il s'agit de sexe tarifé, de situations souvent glaçantes, mais on sent quand même, Nadia Lebrun, que ces filles vous ont assez fascinées par leur habileté, par leur charme, leur absence de honte, leur absence de remords, de complexe.
Non, moi, voilà, tout ce que je peux dire, c'est que j'ai eu de l'indulgence. Parce que moi, j'ai pas 20 ans en 2017. 2007. Moi, je ne suis pas issue d'un milieu pauvre. Moi, je n'ai pas eu faim dans ma vie. Voilà, j'ai eu heureusement l'aide de mes parents pour mes études et une famille construite. Et je n'ai pas subi, comme 90% des jeunes femmes qui se prostituent, du harcèlement sexuel par des hommes.
Vous n'avez raconté aucune histoire en particulier. Il y en a une qui vous a plus marquée que les autres.
Oui, celle de Marion.
Oui.
Voilà, cette jeune fille qui est étudiante dans un cours d'art dramatique connu, qui va devenir une star, hein, qui va devenir une actrice connue qu'on voit déjà apparaître.
C'est marrant, on se sent déjà à Hollywood, si vous voyez ce que je veux dire.
Mais vous savez, je rentre des États-Unis où je travaille l'adaptation de ce livre. Mais je vais vous dire quelque chose, c'est qu'aux États-Unis, où elles sont les plus nombreuses, les Sugar Babies, c'est comme Disney. Si vous voulez, c'est une histoire qu'on raconte, comme les sites, comme la communication de ces sites. Et c'est ça qui va se passer en France aujourd'hui, si on ne va pas au cœur du problème, s'il n'y a pas une politique plus forte, si les pouvoirs publics ne s'engagent pas plus pour aider cette génération, nos étudiants, qui sont l'avenir de la France. Je ne veux pas faire un parallèle. Voilà, qui fait des attentats en France aujourd'hui? Ils ont quel âge?
Oui,
ils ont
quel âge? On ne va pas s'engager sur ce terrain-là, ça sera le sujet d'ailleurs
pas,
de lundi.
Je ne m'engage pas sur le terrain, mais c'est un constat générationnel.
Merci en tout cas à vous, Nadia Lebrun. Merci à vous. Alors, Nadia Lebrun, ça s'appelle Les Nouvelles Courtisanes et c'est publié chez Kéro. Tout à fait intéressant à lire. Merci, Alix Hier, du syndicat La Fage. Merci. On se retrouve lundi. Merci à toute l'équipe, Baptiste Madini, Romain Dubrac, Didier Cherouz. Lundi, où en est la France dans les méthodes de déradicalisation? Vous voyez qu'on y revient, 2 ans après les attentats du 13 novembre. Et bien évidemment, merci à vous tous, les voisins, les voisines. Vous le savez, c'est vous qui faites aussi beaucoup cette émission par vos témoignages en nous appelant au standard et par vos messages laissés régulièrement, très nombreux, sur notre page Facebook et sur notre fil Twitter. L'émission est en ligne, allez vite l'écouter. À très vite, à lundi.